Une heure en France. Frédéric Le Tournier sur France Bleu.
Et voilà une démarche solidaire et avant tout une belle histoire qu'on voulait vous raconter dans Une heure en France. Elle s'est déroulée dans l'une des dernières poteries traditionnelles de France, la poterie d'Albi. La directrice est avec nous. Bonjour Laure Camillo.
Bonjour.
Les poteries d'Albi, c'est avant tout un savoir-faire, c'est très familial. Combien de personnes travaillent dans l'entreprise ?
Entre 20 et 25 personnes selon la saison.
Donc tout se déroule comme d'habitude et un beau jour, il y a un client qui attire votre attention. Il achète de la terre et il demande à utiliser vos fours pour faire cuire ses créations. C'est comme ça que ça s'est passé au début ?
Oui, c'est exactement comme ça. Il est venu parce qu'on vend notre terre pour ceux qui veulent faire des créations, des sculptures. Mmh. Et il est revenu la donner à cuire. Et moi, je passe le matin dans les ateliers et en passant sur le côté des fours, là où on met les pièces cuites, j'ai vu les œuvres de cette personne et je me suis dit, mais c'est pas un amateur, c'est un professionnel.
Parce que ce client, c'est donc Vaël, un réfugié politique syrien.
Oui.
Vaël, d'accord. Oui. Il était potier depuis 25 ans dans son pays, en fait.
Exactement. Il est palestinien syrien et en fait, il a 25 ans de poterie derrière lui et il avait sa propre poterie là-bas avec 8 salariés.
Donc ça a attiré votre attention. Ces créations, elles étaient similaires à celles que vous faites à la poterie d'Albi?
Non, pas du tout. En fait, il a un savoir-faire autre et complémentaire. Il décore tout à main levée avec le couteau. Il fait des fleurs à main levée. Il sculpte la terre et sans décalcomanie, tout de mémoire. C'est ça qui est magnifique.
Alors son histoire, on va la raconter sommairement. Il est parti de Syrie en 2012. Il est passé par Paris, oui. La Rochelle. Avant d'arriver à Albi, c'est vraiment une rencontre qui a été écrite.
Ben, c'est d'autant plus qu'on n'est que 4 ou 5 potiers comme nous en France aujourd'hui. Donc pour qu'il atterrisse sur Albi et qu'il y ait une poterie et qu'il retrouve vraiment la matière terre qu'il avait là-bas chez lui, quelque part c'est un peu retourné aux racines, c'est une chance mutuelle je dirais.
Donc vous, Laure Camillo, vous avez pu lui permettre de faire un stage avant de l'embaucher, il est embauché aujourd'hui ?
Oui, il est embauché, il fait partie intégrante de l'équipe, il travaille avec Cédric, Marie, Thibault, avec toute l'équipe.
Et il ne parle pas encore français, comment vous faites pour communiquer ?
Eh bien, alors il y a beaucoup de choses qui se passent par les yeux avec Wael, parce qu'il a une telle humanité dans ses yeux que c'est vraiment indescriptible. Et après, j'ai trouvé le moyen, comme on se suit sur Facebook tous les deux, on s'envoie des messages sur Messenger, comme ça il peut les traduire dans sa langue natale et me traduire, ou aussi par sa fille Bissam qui parle de mieux en mieux français.
Est-ce que vous diriez qu'il a retrouvé une stabilité, voire même presque une autre famille avec les poteries d'Albi ?
Oui, mais d'ailleurs, je pense que c'est un peu comme ça qu'il le dit. Ça lui a redonné une identité dans un pays qui lui était inconnu. Et en plus, étant donné qu'il a cet amour pour la terre, il a été naturellement accueilli par l'équipe. Je veux dire, il n'y a eu aucun effort parce qu'on sent qu'il aime ce qu'il fait. Donc, on se retrouve avec lui dans cette passion.
Et vous lui avez permis aussi de s'épanouir parce que c'est vrai que c'est pas évident d'arriver retrouver un travail. Ça permet aussi de retrouver une forme de stabilité.
Mais surtout quand la langue est un barrage, puisque on aura un gros travail à faire ensemble sur ce point-là dans l'avenir. Mais c'est important, dans l'avenir, j'aimerais aussi qu'il puisse développer ses propres lignes, les exposer dans le magasin et que les clients viennent, puissent découvrir son savoir-faire et demandent à l'émailler dans une couleur qui leur conviendra, mais que chacun s'approprie une poterie de Wael. Hier, j'ai eu une cliente qui est venue. Derrière le comptoir, il y avait une des poteries de Wael et elle est tombée en amour devant la poterie et elle se l'est appropriée de suite.
Vous vous apportez mutuellement des choses. Vous parliez de la technique qu'il a au couteau que vous ne pratiquiez pas. Lui aussi, il apprend de vous des choses ?
Oui, je pense, c'est pas à moi de le dire, mais je pense, oui, il apprend les techniques d'émaillage qu'il n'avait pas chez lui, puisque chez lui, il n'émaillait pas. Mais il va apprendre les choses autour aussi. Et on va faire des lignes aussi de produits dans l'avenir, en 2018, commune, qui utilisera le savoir-faire de nos tourneurs maison et le savoir-faire que Wael avait, toute la décoration à main levée sur les pièces.
En tout cas, bravo et merci beaucoup, Laure Camillo, de nous avoir raconté cette très belle histoire, les histoires de Wael et de la poterie d'Albi. Merci.
Merci pour lui surtout, pour cette mise en lumière de lui parce qu'il le mérite.
Et c'est une très belle histoire. Merci encore, bonne journée.
Au revoir.
Au revoir, Laure.
France Bleu, une heure en France.
Avec Pascal qui joue avec nous. Bonjour, bienvenue Pascal.
Bonjour.
Où êtes-vous, à Beaumont-sur-Lèze ?
Oui, près de Toulouse.
Près de Toulouse. C'est pas d'orage encore là à Toulouse ?
Alors, on en a eu ces derniers temps, si, beaucoup même.
Il y a beaucoup d'orages là déjà ?
On en a eu ces derniers temps, pas là aujourd'hui pour l'instant, c'est prévu pour demain.
Ah voilà, demain. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Ce sera malheureusement partout en France, les orages, hein, ce week-end. Des projets pour ce long week-end de votre côté, Pascal ?
Non, on va rester tranquillement à la maison.
Mais ça fait du bien. Dites-moi, quel célèbre peintre français est né à Albi, pas très loin de chez vous ? Henri de Toulouse-Lautrec ou Raoul Dufy ?
Oui, c'est Henri de Toulouse-Lautrec, bien sûr.
Bien sûr, c'est la bonne réponse. J'ai le plaisir de vous envoyer Cuisiner en BD, un très bel ouvrage sorti chez Larousse.
Super.
Je vous fais une énorme bise, Pascal.
Ah ben, je vous la renvoie bien volontiers.
Ça me fait plaisir. Bon week-end, à bientôt.
Bon week-end.
Au revoir. Au revoir.
Une heure en France, Frédéric Le Tournier sur France Bleu.
Et c'est notre moment innovation dans Une heure en France et celle-ci va plaire à toute la famille. Ce week-end, partout en France, c'est la fête du vélo. Alors à cette occasion, on avait envie de découvrir le vélo cargo. Il est de style hollandais, de la marque Amsterdamer. C'est un biporteur avec une caisse à l'avant. Vous allez voir, on va tout vous expliquer. Pour en parler, nous avons choisi un utilisateur régulier qui habite au Poiré-sur-Vie dans les Pays de la Loire. Bonjour Adrien Chautard. Est-ce que vous pratiquiez déjà beaucoup le vélo avant l'achat du vélo cargo ?
Ah oui, moi je suis cycliste depuis longtemps, pas vraiment cycliste sportif, mais si j'en pratique un petit peu en tant que sport, mais aussi plutôt cycliste utilitaire. Je me rends à mon travail depuis avant l'école, l'université.
Adrien, on vous entend très très mal. Essayez de ne pas bouger.
D'accord, je vais essayer.
Voilà, ça c'est parfait. Voilà. Donc on a compris que vous faisiez beaucoup de vélo, c'est ça ?
Oui, voilà, plutôt utilitaire et un peu sportif. Voilà.
Très bien. Et vous avez des enfants, donc c'était aussi pour eux que vous avez acheté le vélo cargo ?
Oui, voilà, c'est pour les déplacer, parce que là, ils sont à l'âge où pour se déplacer tout seul à vélo, c'est encore un peu petit. Mmh. Et pour se mettre sur les sièges vélo, ça commence à être un peu grand, ils sont deux.
Quel âge ils ont ?
Donc, ils ont 4 et 6 ans et demi.
D'accord, et vous les installez comment ? À l'avant, vous les voyez ?
Oui, voilà, ils sont devant mon guidon. Mmh. Il y a un bac en bois qui est relativement grand. Ils ont un petit banc sur lequel ils peuvent s'asseoir. Et il y a des ceintures pour s'accrocher. Il y a aussi une sorte de capote qui permet de se protéger de la pluie, du vent, du froid.
Et est-ce que ça leur plaît ? Est-ce qu'ils sont contents d'aller dans le vélo cargo ?
Ah oui, ils préfèrent ça à la voiture, évidemment.
Parce que vous en faites une utilisation quotidienne, vous les emmenez à l'école avec, qui est assez loin pourtant.
Alors, l'école est à 4 km, donc c'est pas non plus le bout du monde, hein, c'est pas non plus tous les jours, c'est dès que les conditions s'y prêtent, c'est au moins 2 fois par semaine environ. 3 fois des fois.
Ouais.
Et d'autres trajets du week-end, faire des petites courses, à la piscine, etc.
Bon, Adrien Chautard, est-ce que vous trichez un peu ? Est-ce qu'il est à assistance électrique, ce vélo ?
Ah oui, il est à assistance électrique pour deux raisons. Même si la Vendée est relativement plat, nous, on a un petit dénivelé quand même pour revenir de l'école. Il y a une belle côte de 800 mètres. Moi qui suis sportif, ça m'irait à la rigueur. Madame qui l'utilise aussi beaucoup, elle
c'est compliqué là, oui.
Petite assistance, c'est pas reçu. Voilà, sachant que entre le poids du vélo, le poids des enfants, ça commence. Voilà, c'est faux. Ce serait que du plat, ça irait, mais voilà.
Il faut être en forme quand même. Hein. Et est-ce que c'est.
Faut juste pédaler. Hein.
Oui, mais bon, faut souffler en même temps. Est-ce que vous diriez que c'est plus dur d'avoir une remorque à l'arrière ou une remorque à l'avant, finalement ?
Alors, c'est pas tout à fait une remorque, parce que c'est vraiment intégré au vélo, donc c'est plus facile parce que ça tire moins, quoi. Il y a moins de frottement. Une remorque, ça rajoute, c'est 2 roues supplémentaires, il y a un petit peu d'élasticité, donc la remorque qu'on a pratiquée aussi, hein, mais là c'est vraiment facile. On est sur un biporteur, il y a 2 roues, il y en existe aussi à 3 roues, des triporteurs. Mm-hmm. Et là, sur le plat, ça roule tout seul, quoi. L'assistance marche plus sur le plat, on est sur
sa propre part, quoi. Et voilà. Vous avez des questions des voisins? Face à votre embarcation ?
Oui, les voisins, les autres parents de l'école sont curieux souvent. Bon, les voisins, ils sont habitués, j'ai déjà des vélos un peu spéciaux. Donc,
C'est ça, on sent qu'Adrien, il a 17 vélos dans le garage, un pour chaque jour, pour chaque situation. Bon, en tout cas, on sent que vous êtes convaincu du vélo cargo. J'espère que vous allez l'utiliser ce week-end pour la fête du vélo, hein.
On va essayer. Oui.
Merci beaucoup en tout cas de nous en avoir parlé, de nous avoir donné un aperçu de ce bon moment qu'on peut passer en famille avec le vélo cargo.
Merci beaucoup.
À bientôt, bonne journée, bon week-end Adrien.
Au revoir.
Au revoir.
Une heure en France, Frédéric Le Tournier sur France Bleu.
On avait très envie de vous parler d'un savoir-faire pratiquement unique en France aujourd'hui. Celui de Carlos, un breton qui est maître papetier depuis 35 ans et qui vient de s'installer dans un moulin à Sainte-Suzanne en Mayenne. Bonjour Carlos Robert.
Bonjour.
Alors vous êtes arrivé depuis peu en Mayenne. Le moulin qui servait à faire de la farine jusqu'en 1937 a été restauré pour votre arrivée. Ça va? Il marche bien là?
Bah tout à fait, oui, il a été restauré il y a 3-4 ans maintenant pour en faire un moulin à papier. Donc il commence à refonctionner hein, parce que tous ces mécanismes, tous ces rouages, il faut les roder. Oui. Donc il y a toujours un petit temps d'adaptation. Là, je suis arrivé en début d'année. Là, ça commence à tourner assez bien.
Il a fallu 6 mois pour que vous vous appreniez à vous connaître tous les deux.
Voilà, tout à fait. Bon, c'est pas tout à fait fini parce qu'il y a encore quelques machines à installer, mais c'est en bonne voie.
Alors votre métier, c'est un art qui date du XIIIe siècle. Auprès de qui et quand l'avez-vous appris, vous, ce métier ?
Alors, c'est un métier qui date du XIIIe siècle, effectivement, en Europe, hein, puisque le papier a été inventé bien avant, en Chine, hein, pratiquement 2200 ans avant notre ère, donc un peu plus de 2000 ans que le papier existe. Mm-hmm. Donc, je l'ai appris en Charente, auprès d'un maître papetier, un des derniers à l'époque qui était issu de cette génération de papetiers. Donc dans un moulin près d'Angoulême.
Comment ça se passe? Comment on fait en pratique? On transforme des vieux chiffons, c'est ça la matière première? Mais il y a beaucoup d'étapes de réalisation.
Oui, tout à fait. Donc la matière première, effectivement, c'est le chiffon. C'est la matière traditionnelle qui a été utilisée pendant un peu plus de 600 ans, puisque le papier qu'on utilise actuellement fait à partir de pâte de bois, c'est très récent, ça, moins de 200 ans. Avant, ce n'était que du chiffon.
Oui.
Donc c'est à partir de ce simple morceau de tissu, alors c'est une fibre végétale bien entendu, hein, c'est pas synthétique, pas de matière animale, que l'on va petit à petit, au fil des différents traitements, arriver à la feuille de papier.
Et vos papiers, une fois produits, c'est pour du dessin? À quoi est-ce qu'ils ressemblent?
Alors c'est un papier, a priori il ressemble à peu près à un autre papier, c'est à partir de pas a priori, hein, puisqu'en fait ce sont quand même deux supports qui sont bien différents. Effectivement, ce papier est principalement destiné aux arts graphiques, hein, des papiers pour artistes, oui. Aquarellistes, graveurs, entre autres.
Il y a plus que deux maîtres papetiers en France, je le disais, vous aimeriez aussi trouver un successeur à Sainte-Suzanne?
Ah bah c'est surtout le but maintenant, c'est de trouver quelqu'un qui soit passionné comme je le suis par le papier et qui souhaite acquérir ce savoir-faire. Donc pour moi, c'est primordial de pouvoir transmettre ce savoir-faire à une nouvelle génération.
Mais Carlos Robert, je ne sais pas si vous êtes d'accord, je trouve qu'on a l'impression qu'on revient aujourd'hui à plus d'artisanat. Ça peut intéresser beaucoup de gens.
Tout à fait, oui. L'artisanat, depuis quelques années, un peu le vent en poupe. Bon, ça peut effectivement intéresser, surtout d'autant plus que c'est un métier qui est quand même très peu connu. Hein. Le papier, c'est quelque chose qu'on utilise quotidiennement. On peut difficilement se passer de papier. Il y a peu d'instants dans la journée où on n'utilise pas du papier. Mais en fait, on ne sait pas trop vraiment d'où il vient, comment il est fabriqué.
On peut aussi visiter votre moulin. C'est déjà fait. Est-ce que la réaction des enfants, ça doit être l'émerveillement quand même?
Ah ben, enfants et adultes, hein, d'ailleurs.
Et adultes aussi.
L'émerveillement vient des deux. Hein.
Il n'y a pas d'âge.
Donc effectivement, non, il n'y a pas d'âge pour s'émerveiller, heureusement. Donc le moulin se visite, effectivement. Donc actuellement, on est ouvert que pour les groupes, justement, parce qu'en fait, comme je vous disais précédemment, il y a encore quelques installations à terminer. Mais sinon, en principe, à partir de début juillet, il est ouvert à tout public.
Carlos Robert, on va préciser, il n'y avait pas de bande son prévue. Ce sont les véritables oiseaux qui sont derrière vous. En fait.
Ce sont les véritables oiseaux qui sont derrière moi.
C'est
formidable.
Et
je suis dans les jardins du moulin. J'aurais été un petit peu plus près, vous auriez pu entendre le martèlement de la pile à maillet, mais effectivement, là, ça aurait pu être un peu plus gênant au niveau du son pour les auditeurs.
Ah, mais là, c'est charmant, j'avais l'impression d'être dans Blanche-Neige. Merci beaucoup, beaucoup, Carlos Robert. On a envie de venir visiter le moulin de Sainte-Suzanne. On vous souhaite de trouver un successeur et bravo pour votre métier. Merci de nous en avoir parlé.
Merci à vous.
Bonne journée.
Au revoir. Merci, Parimont. Au revoir.
Au revoir, Carlos.